Sardes. Nous arrivons à l'épître que le Seigneur adresse à l'assemblée de Sardes. Cette ville n'est mentionnée nulle autre part dans le Nouveau Testament, et l'on ignore par qui l'Évangile y fut porté. Mais comme elle était située dans la contrée où Paul avait annoncé la parole pendant 2 ans, et de laquelle il est dit « tous ceux qui demeuraient en Asie entendirent la parole du Seigneur » acte 19, verset 10, nous pouvons penser que c'est alors que fut établie l'assemblée de Sardes. Voici ce que le Seigneur lui dit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Le Seigneur Jésus se présente ainsi pour montrer qu'il possède la plénitude du Saint-Esprit et toute l'autorité pour le gouvernement de l'assemblée. Toute ressource est en lui. Comme il le fait pour presque toutes les assemblées, le Seigneur commence ainsi. « Je connais tes œuvres. » Combien cette parole, plusieurs fois répétée, est sérieuse. Les œuvres, ce n'est pas seulement ce que les hommes voient, c'est tout l'ensemble de la vie, même ce qu'il y a de plus intime dans nos pensées et nos sentiments. Le Seigneur connaît tout, et voici le jugement qu'il porte sur Sardes. Tu as le nom de vivre et tu es mort. Cela nous montre évidemment que le Seigneur discernait le vrai état intérieur. Il y avait à Sardes une belle forme religieuse, mais Jésus n'y voyait au fond que la mort. Le monde peut dire « voilà un homme pieux, voilà un jeune homme, une jeune fille sérieuse », parce qu'on assiste à des services religieux, que l'on prie et qu'on lit la parole de Dieu. Mais prenons garde d'avoir seulement un nom de vivre. Le Seigneur, dans sa grâce, donne à l'assemblée de Sardes un sérieux avertissement. « Sois vigilant, dit-il à l'ange, et affermis ce qui reste, qui s'en va mourir. » Il y avait donc encore quelques personnes à Sardes qui n'étaient pas mortes, qui avaient autre chose qu'un bruit de vivre. Celles-là avaient besoin d'être affermies. Et comment une âme peut-elle être affermie? C'est en veillant pour que rien ne la détourne du Seigneur. Si l'on aime à s'occuper du monde, de ses plaisirs et de ses affaires, si l'on s'associe à lui, on ne pense plus à Christ. On néglige la communion avec Dieu, et on n'a bientôt plus qu'un nom de vivre. Alors le Seigneur peut dire, comme à Sardes, « car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. La conduite que l'on mène, les œuvres que l'on fait, peuvent paraître excellentes aux yeux des hommes. Mais la question est, sont-elles parfaites devant Dieu? C'est devant son Dieu que le Seigneur les apprécie. Si elles sont seulement le résultat d'habitudes religieuses, ou d'une bonne éducation morale, ou encore le fruit de la propre justice, elles ne sont pas parfaites devant Dieu. Elles doivent procéder de la vie de Dieu dans l'âme, et être accompli pour Jésus. L'apôtre Paul disait « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité » de Corinthiens 5, verset 15. Alors la plus petite œuvre, même un verre d'eau froide, donné au nom de Jésus, est agréable à Dieu. Le Seigneur ajoute ensuite une autre exhortation. « Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. » Ce que les chrétiens ont reçu, c'est la grâce de Dieu par l'Évangile. Ce qu'ils ont entendu, c'est la parole de Dieu. C'est là ce qu'il faut garder, et si l'on s'en est écarté, y revenir. Bien des jeunes chrétiens ont reçu avec joie l'Évangile et entendu la parole avec bonheur. Ils prenaient tout leur plaisir dans les choses de Dieu. Puis, peu à peu, ils se sont alanguis. D'abord, pleins d'ardeur, ils tombent, faute de vigilance, dans un état d'indifférence et de somnolence qui ressemble à la mort. À eux s'adressent les paroles « Souviens-toi » et « Prends garde » et « Repens-toi », c'est-à-dire « Reviens à ce que tu as reçu et entendu ». Le Seigneur, après la parole d'avertissement, fait entendre à Sardes une menace bien sérieuse. « Si donc tu ne veilles pas, Je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Les vrais chrétiens, qui ont la vie de Dieu, attendent que le Seigneur vienne pour les prendre avec lui. Le Seigneur ne vient pas sur eux, mais pour eux, et ils sont heureux en l'attendant. Mais ceux qui n'ont que le nom de vivre seront traités comme le monde, malgré leur profession religieuse. Ils seront enveloppés dans le jugement du monde, à l'égard duquel l'apôtre dit « Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit ». Quand ils diront « paix et sûreté », alors une subite destruction viendra sur eux. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Quel moment terrible ! S'être endormi dans une fausse sécurité et se réveiller pour le jugement. Le Seigneur nous en préserve. Mais à Sardes, au milieu de l'état général de mort, il y avait encore un résidu. Le Seigneur Jésus aime à reconnaître ceux qui en font partie. C'est un rafraîchissement pour le cœur du Sauveur de voir des âmes qui lui sont attachées. Lisons ce qui caractérise ces âmes fidèles. Toutefois, tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Quelques noms, cela veut dire des personnes que le Seigneur connaît spécialement et qu'il compte pour ainsi dire. Le Seigneur dit de ses fidèles, ils n'ont pas souillé leurs vêtements, c'est-à-dire leur conduite a été pure et pour ma gloire. Les autres avaient souillé leurs vêtements en s'associant au monde et en marchant comme le monde. Prenons garde, si nous sommes chrétiens, de ne pas souiller nos vêtements. L'apôtre Jacques nous dit que la religion pure et sans tache devant Dieu le Père est de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver pur du monde. Jacques 1, verset 27. Quand le cœur est attaché à Christ, on se tient loin du monde. Représentons-nous une grande et large route boueuse où court et s'agite une foule de gens. Ils sont tous sales, leurs vêtements sont souillés de boue. Mais il y en a quelques-uns qui se sont dit « Ne pouvons-nous pas trouver un chemin propre ?» Et ils découvrent un petit sentier étroit mais sec où ils peuvent marcher sans se salir et ils y vont. Ne serait-il pas stupide de redescendre sur la route boueuse sous prétexte qu'on y est plus au large ? Il y a dans le monde un sentier étroit mais sain et pur, c'est celui où Jésus a marché. En suivant le Sauveur, on ne souille pas ses vêtements. La vie alors est sainte et Jésus nous approuve. Écoutons ce qu'il promet à ceux qui n'auront pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Elle contraste avec ceux qui ont souillé leurs vêtements et qui n'auront point de part avec lui, mais seront jugés avec le monde. Les autres marcheront avec le Seigneur. Ils formeront son brillant cortège, revêtus de sainteté et de justice, vêtements dignes de sa glorieuse et pure personne. Mais on ne vit pas dans un monde méchant et corrompu sans avoir à lutter pour ne pas souiller ses vêtements. Le monde et Satan présentent, surtout à ceux qui sont jeunes, toutes sortes de séductions, de plaisirs et d'attraits pour les attirer dans la boue et les souillures. Il faut résister. C'est pour cela que le Seigneur ajoute « Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Quand donc on aura vaincu par la vigilance, la parole de Dieu, la prière, et par-dessus tout la foi et la confiance dans le Seigneur, lui-même nous introduira dans cette région heureuse, le ciel, où il n'y a point de souillure possible. Le péché n'y entre pas. Rien n'altérera la pureté et la fraîcheur des vêtements blancs dont nous serons revêtus. Quand le moment sera venu où le Seigneur effacera du livre de vie, c'est-à-dire du registre de la profession religieuse, les noms de ceux qui avaient seulement le nom de vivre, il y laissera les noms de ceux qui auront remporté la victoire. Ils vivront éternellement. Et ce bien-aimé Sauveur prendra plaisir à confesser leur nom devant son Père et ses anges. Publiquement, il dira, « Ceux-là que vous voyez revêtus de robes blanches, ils sont à moi. » Quelle perspective brillante! Ne désirez-vous pas faire partie de cette troupe glorieuse et bienheureuse? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Nous avons à considérer maintenant à quelle époque de l'histoire de l'Église correspond l'état de l'assemblée de Sardes. Nous avons vu que l'assemblée de Thyatire représentait prophétiquement le romanisme, ce grand système religieux corrompu et corrupteur, et que ce qui caractérise ce système est la position de suprématie qu'un homme, le pape, prend comme chef de l'Église. Ensuite, l'idolâtrie remplaçant le culte de Dieu en esprit et en vérité, le salut par les œuvres mis à la place du salut par la foi, et enfin, la prétention du clergé d'enseigner et d'expliquer seul les Écritures, avec défense aux laïcs de la lyre, au moins sans la permission spéciale des conducteurs spirituels. De là, pour le peuple surtout, les ténèbres qui régnèrent dans les âmes durant le Moyen Âge. La Bible, la lumière divine, était cachée. Mais le Seigneur était là, le chef suprême de l'Église, ayant les sept étoiles, toute l'autorité pour gouverner, et les sept esprits de Dieu, la lumière parfaite de la connaissance pour la répandre. Au temps fixé, le Seigneur agit dans sa grâce et fit briller la lumière au sein des épaisses ténèbres du papisme. Cette époque, qui fut pour l'Église comme un nouveau point de départ, se nomme la Réformation. Même aux temps les plus sombres, le Seigneur avait toujours eu des âmes ou même de petites congrégations qui lui étaient fidèles. Des hommes tels que Wycliffe en Angleterre, Jean Hus en Bohême, éclairés de Dieu pour voir les erreurs du romanisme, les dénoncèrent, mais ils n'étaient que comme des lueurs qui précèdent le jour. Celui que le Seigneur choisit pour être son grand champion est Martin Luther, dont nous aurons à parler plus longuement dans la suite. Nous ne devons jamais exalter un homme quel qu'il soit. Le Seigneur seul est digne de l'être, mais nous pouvons rendre grâces à Dieu de ce qu'il a suscité, doué et soutenu des hommes comme Paul, Pierre et Jean pour faire connaître la vérité, et des hommes tels que Luther et d'autres pour la remettre en évidence quand elle a été oubliée et méconnue. La première chose que Dieu fit par le moyen de son serviteur fut de montrer que l'autorité n'est ni dans le pape, ni dans les conciles, ni dans les docteurs, ni dans l'Église, mais uniquement dans la parole de Dieu, seule infaillible pour faire connaître la vérité. La Bible fut donc tirée de la poussière et de l'obscurité où le pape et les prêtres l'avaient laissée enfouie, et présentée à tous comme le livre de Dieu, où chacun peut et doit chercher la lumière. C'est ce livre divin qui avait déjà éclairé et soutenu Wycliffe et Hus. C'est lui qui, partout où Dieu suscita des réformateurs, devint pour eux l'autorité à laquelle ils en appelaient pour justifier leurs enseignements. Et ce livre était pour tous. Aussi fut-il bientôt répandu à profusion par le moyen de l'imprimerie, inventée peu d'années avant la Réformation. Ainsi chacun put apprendre directement de Dieu et put contrôler par cette parole de vie ce qui lui était présenté. Ce fut un coup terrible porté au papisme et à la papauté. On vit bientôt la vanité des prétentions du clergé et l'erreur de ses enseignements. La Bible renversait tout cet échafaudage de clergé, de cérémonie, d'idolâtrie, de salut par les œuvres, de pénitence, de pèlerinage, etc., car elle ne dit rien de ces choses ou les condamne formellement. C'est là la grande œuvre que Dieu a faite par le moyen de ses serviteurs, les réformateurs, remettre la Bible en lumière et ainsi renverser les prétentions et les erreurs de Rome. La grande vérité que Luther proclama et qui lui était particulièrement chère est celle de la justification du pécheur devant Dieu par la foi au sacrifice de Jésus, mort pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. C'est en cela qu'il avait trouvé la paix pour son âme profondément troublée, que toutes ses pénitences et ses œuvres n'avaient pu calmer. De ce moment date ce que l'on nomme le protestantisme, qu'il ne faut pas confondre avec la Réformation. Cette dernière est l'œuvre par laquelle la Bible fut remise en lumière et honneur, où la vraie doctrine du salut fut proclamée, et où les prétentions de Rome furent combattues et ses erreurs dénoncées. Le protestantisme est l'état de choses qui en résulta dans l'Église. La chrétienté en Occident fut dès lors séparée en deux grandes sections, le catholicisme romain, comprenant ceux qui restèrent attachés au pape et reconnurent son autorité, et le protestantisme, comprenant tous ceux qui rejetèrent Rome et ses prétentions et ne reconnurent d'autre autorité que la Bible, au moins nominalement. C'est là ce que le Seigneur considère dans l'assemblée de Sardes, non pas la Réformation qui est son œuvre, mais l'état qui en est résulté sous l'action des hommes. Voilà pourquoi il a à dire ces tristes paroles « Tu as le nom de vivre et tu es mort, et je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. » En effet, d'une manière générale, dans les églises nommées protestantes, soit luthériennes ou réformées, ou anglicanes ou autres, on en vint à n'avoir plus qu'une profession extérieure. Les confessions de foi étaient orthodoxes, c'est-à-dire, selon la saine doctrine, au moins en général, mais laissant les âmes dans l'indifférence, le formalisme et la mort. De plus, ces diverses églises, pour la plupart, furent assujetties à l'État, c'est-à-dire au gouvernement humain, de sorte qu'elles furent mêlées au monde. On voit combien l'avertissement du Seigneur était de saison. Souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Avertissement semblable à celui que le Seigneur avait déjà fait entendre à Éphèse, et ayant pour but de rappeler les âmes à la Bible et à une foi vivante. Au milieu de cet état de langueur et de mort, il y avait cependant toujours des personnes qui ne se contentaient pas d'une vaine forme de piété, mais qui saisissaient par la foi et gardaient dans leur cœur les précieuses vérités du salut. Ce sont elles dont le Seigneur dit « Tu as quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements ». Outre ces personnes isolées, il y eut aussi à diverses reprises dans le protestantisme des réveils plus ou moins étendus. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, ni d'entrer davantage dans le détail de ce qui constitue le protestantisme. Il suffit que nous ayons vu, d'une manière générale, à quoi correspond ce qui est dit de l'assemblée de Sardes. De même que Thyatire ou le catholicisme romain, Sardes ou le protestantisme continue jusqu'à la venue du Seigneur. Alors, toutes deux tomberont sous le jugement. Que le Seigneur nous donne de tenir ferme cette précieuse parole de Dieu, qui maintenant n'est plus cachée, mais qui est accessible à tous et qui est entre nos mains. Il nous accorde de marcher à sa lumière et ainsi de garder nos vêtements, c'est-à-dire notre vie, notre conduite non souillée par le contact avec le monde.